Voilà, donc oui, c'est avec vraiment beaucoup de joie que je reviens parmi vous. Eh bien, j'ai regardé mes notes et la dernière fois que je suis venu ici, eh bien, c'était en novembre 2017. Et puis, vous vous rappelez qu'on avait étudié ensemble la première béatitude. Alors, ces béatitudes, vous les trouvez dans l'évangile de Matthieu. C'est le chapitre 5 et les versets 1 à 12. On les connaît bien, ces béatitudes, n'est-ce pas? Elles sont importantes parce que finalement, ces béatitudes sont la description du caractère d'une personne que nous aimons tous particulièrement. Et je pense que vous avez compris de qui je parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ces béatitudes nous parlent en fait de qualités spirituelles et morales que Dieu aimerait voir abonder dans le cœur de chacun de ses enfants. Hein, vous prenez la première béatitude, par exemple, heureux les pauvres en esprit. Ces pauvres en esprit, ben, c'est les humbles. Et qui était plus humble que le Seigneur Jésus-Christ? Heureux les affligés, ceux qui ont pleuré, pleuré pour le péché. Alors, Christ n'avait pas de péché, mais il a pleuré à cause du péché. Heureux les débonnaires, qu'est-ce qui était plus débonnaire que le Seigneur Jésus-Christ, etc. Vous pouvez prendre chacune de ces béatitudes, l'une après l'autre, et voir finalement le portrait du Christ. Et pour nous, le salut, c'est quoi? Ben, vous connaissez le but ultime du salut, car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Il y a un très très beau terme en anglais, Christ-likeness, la similitude à Christ, un terme que j'aime beaucoup. Et c'est ça qui rend finalement la vie chrétienne tellement passionnante, parce que ce n'est pas simplement être sauvé de son péché, mais c'est cette métamorphose que Dieu opère dans nos cœurs déjà maintenant, pour nous amener d'un degré de gloire à un autre, toujours plus haut, dans cette ressemblance à Christ. Nous tous qui contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons regarder à la deuxième béatitude. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc c'est le verset 4. Alors c'est le roi David qui a écrit ceci dans un psaume. C'est le psaume 55. Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert, je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux et que la tempête. Et finalement, c'est un cri qui sort de notre cœur à tous à un moment ou à un autre de notre vie. C'est un cri pour, en fait, du réconfort ou pour une échappatoire, pour de la liberté, pour nous échapper de ce qui nous fait mal, de ce qui nous oppresse, de ce qui nous tourmente. On aimerait juste pouvoir fuir de ces circonstances qui nous sont si difficiles. Et lorsque nous faisons face à un grand chagrin, une grande désillusion, une grande tragédie ou un grand échec de notre vie, ah, mais si seulement je pouvais faire ce que le roi David dit dans ce psaume, m'envoler et fuir loin, partir dans le désert. Alors on aimerait échapper à nos maux comme on aimerait échapper finalement à l'orage et à une pluie torrentielle. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de trouver un refuge contre nos maux, contre notre tristesse et contre nos chagrins, que de trouver un refuge contre la pluie et contre l'orage. Et plus le chagrin est profond, et plus la pression est intense, et plus il semble que ce refuge nous échappe. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci: heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors, on a déjà vu avec la première béatitude, en fait, il y a un grand paradoxe dans toutes ces béatitudes. Et dans la deuxième béatitude, on le voit. Qu'est-ce qu'il y a de plus bizarre que d'imaginer que finalement, le chemin de la consolation, le chemin du bonheur, de l'épanouissement, finalement, passe d'abord par l'affliction, par le chagrin. C'est une sagesse qui est totalement inaccessible, n'est-ce pas, pour le monde. Parce que le monde, ce qu'il essaye de faire avant tout, c'est d'oublier ses chagrins, de tourner le dos à ses revers, à tout ce qui l'oppresse, tout ce qui lui fait mal, de faire le vide dans son cœur, dans ses pensées, pour ne plus y penser. Et ainsi, trouver un bonheur bien illusoire. Donc le monde, dans son essence, nous dit, mais oubliez vos chagrins, oubliez vos revers, faites tout pour les éviter. Et selon le monde, éviter la douleur, les maux, les désillusions, la frustration, si on arrive à éviter ces choses, ça amène le bonheur. Et inversement, le chemin du bonheur, selon le monde, c'est d'avoir les choses qui vont comme on aimerait qu'elles aillent. Donc on va nous dire que le plaisir nous amène le bonheur, l'argent nous amène le bonheur, le divertissement nous amène le bonheur, etc., etc. Et donc, tout au travers de l'histoire de l'humanité, il y a cet axiome que les choses favorables, qui nous sont favorables, nous font du bien. Elles nous rendent joyeux, elles apportent le bonheur. Et inversement, les choses qui nous font mal, eh bien, elles nous apportent le malheur. Et c'est un principe qui est tellement évident, selon le monde, bien sûr, que la plupart des incroyants ne vont même pas discuter ou remettre en question un tel axiome. Donc le monde va dépenser beaucoup d'argent, va beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme pour essayer de divertir les gens autant que possible. Et le but de tout cela, c'est que cet esprit de contrition, de chagrin, de tristesse puisse disparaître de nos vies afin, dit le monde, de recevoir ce bonheur tellement illusoire. Mais Jésus-Christ dit quelque chose de très différent. Heureux, ou bénis, on pourrait dire c'est la même chose, les affligés. Alors, pour bien comprendre cette béatitude, eh bien, il faut bien comprendre la nature de cette affliction, de cette tristesse, de ce chagrin, si je peux dire, dont parle Jésus. Parce que sinon, on ne va pas la comprendre et on ne comprendra pas non plus la bénédiction. Alors, on va faire trois choses ce matin. On va regarder à la nature de cette affliction. Ensuite, on va regarder à ce qui pourrait l'entraver. Parce que si cette affliction, ce chagrin amène la consolation que nous aimons tous, bien, il faut effectivement essayer d'éliminer ces choses qui pourraient entraver la venue de ce chagrin dans notre cœur. Et finalement, on va regarder à la récompense d'un tel chagrin. Alors, le titre de ce message, c'est la deuxième béatitude, n'est-ce pas ? Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors, la signification, la nature de ce chagrin, de cette affliction. Alors, il y a certains chagrins, certaines tristesses, certaines afflictions qui sont vraiment communes à tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Et finalement, on peut, je pense, considérer trois types de tristesse, de chagrin ou d'affliction. Le premier type, c'est un chagrin inapproprié. Un chagrin déplacé. C'est un chagrin qui vient de désirs mauvais, impurs, qui ne sont pas assouvis. On aimerait à tout prix que notre volonté, nos désirs puissent se réaliser, puis ils ne se réalisent pas, puis il y a une frustration, puis ça nous irrite, et pour finir, ça nous fait peut-être même pleurer. Ou d'autres souffrent parce que justement, ils ont des affections, ils ont des loyautés qui sont placées à la mauvaise place. Bien pour de tels chagrins, de telles tristesses, le Seigneur Jésus n'offre aucune consolation, bien sûr. Alors il y a des exemples dans la Bible, dans la parole de Dieu, de ces chagrins inappropriés. C'est Amon, ou Amnon, je ne sais plus comment on dit en français, c'est pas grave. C'est un des fils de David. Il est tombé désespérément amoureux de sa sœur, en fait c'est sa demi-sœur Tamar. Et il en est tellement amoureux qu'il se rend malade. Mais voilà, c'est sa sœur, elle est vierge, il peut rien lui faire, en tout cas légalement, il ne peut rien lui faire. Donc un tel chagrin, une telle tristesse ne va recevoir aucune consolation, parce que c'est totalement impur. Ou d'autres, c'est toujours dans la parole de Dieu, vont amener le chagrin à un tel niveau que ça aboutit finalement au désespoir. Et ça aussi, ce n'est pas un bon chagrin. C'est le roi David. C'est la mort de son fils Absalom dans la bataille. Et David est complètement consterné, dévasté lorsqu'il apprend la mort de son fils Absalom. Parce que bien sûr, il sait que son fils Absalom n'était pas prêt pour faire face à l'éternité. Alors il dira, mais Absalom, mon fils, que je ne sois mort à ta place, n'est-ce pas? Et il pleure à tel degré que pour finir, son général en chef, Joab, doit le reprendre et lui dit, tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux que tu aimes. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur, et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Donc voilà cet amour pour Absalom de David, on le comprend, mais porter un tel chagrin pour la mort d'un fils tellement rebelle, ça prenait des proportions disproportionnées. Donc pour ces chagrins qui ne sont pas légitimes, la deuxième béatitude n'offre aucun réconfort. Il y a maintenant un deuxième type de chagrin qui, lui, est légitime, mais qui se trouve, encore une fois, chez tous les hommes, aussi bien chez les croyants que les non-croyants. Alors, c'est vrai que pour de tels chagrins, il y a effectivement une expression qui va se manifester par des larmes qui sont légitimes. Et c'est vrai que ces chagrins qui sont propres à tous les hommes, quels qu'ils soient, il y a une forme de bénédiction. Et même le monde, même les incroyants le reconnaissent. Il y a un proverbe arabe qui dit ceci, tout ensoleillement conduit à un désert. On aime le soleil, mais trop de soleil pour finir va dessécher la terre. Et souvent, il y a des leçons qu'on peut apprendre seulement au travers de dures épreuves qui nous font... Ils font qu'il y a de grosses larmes qui coulent de nos yeux. Il y a un poème d'un Anglais, Robert Hamilton, qui écrit ceci, je l'ai traduit en français, mais c'est bien dit. J'ai parcouru 1 mille avec la satisfaction, elle a bavardé tout le long du chemin, mais je ne suis pas devenu plus sage pour autant, malgré tout ce qu'elle avait à dire. J'ai parcouru 1 mille avec le chagrin, et il ne m'a jamais dit un seul mot. Mais oh, que de choses j'ai apprises de lui lorsqu'il a marché avec moi. Donc voilà, il y a ce chagrin qui est propre à tous les hommes, qui est causé par différentes causes. Il y a par exemple la mort d'une personne qu'on aime. C'est Sarah qui décède. Et bien sûr que pour Abraham, c'est la mort de sa bien-aimée, c'est une séparation, il sait qu'il la retrouvera plus tard, mais c'est une séparation, et pour cela, il pleure. Il y a la solitude, surtout la solitude spirituelle, qui conduit le psalmiste à pleurer, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? L'opposition aussi peut être une forme de souffrance pour le chrétien, aussi bien que pour le non-chrétien. Quand on est rejeté, qu'on n'est pas reçu comme on aimerait être reçu, ça peut être difficile. Timothée a connu un tel chagrin. Paul écrira à Timothée, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Le souci aussi de la prospérité de ceux qu'on aime, c'est une réelle inquiétude, ça peut être un réel chagrin pour le chrétien comme aussi pour le non-chrétien, n'est-ce pas? Paul dira aux Éphésiens, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et de tels chagrins qui sont légitimes, aussi bien aux croyants que non-croyants, même notre Seigneur l'a éprouvé. Le verset le plus court de la Bible se trouve où? C'est l'évangile de Jean. Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Face à la mort, même Christ a versé des larmes. Ou parfois, il y a ce chagrin qui est causé par le mal tout autour de nous. Et même des non-croyants peuvent éprouver un tel chagrin aussi. Ils voient toute l'étendue des ravages causés par le mal de l'homme et on s'afflige. Même des non-croyants peuvent pleurer sur l'avortement, n'est-ce pas? Et bien sûr que le croyant encore plus. David écrit dans le psaume 119, « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. » Donc, mes amis, voilà, c'est vrai, appelé à pleurer lorsqu'on voit le mal autour de nous. Mais mes amis, même pour ces chagrins, cette deuxième catégorie qui sont légitimes et qui sont communs à tous les hommes, croyants, non-croyants, ce n'est pas de ce chagrin-là dont parle le Seigneur Jésus-Christ dans sa deuxième béatitude. C'est encore une troisième forme de chagrin. Quelle est-elle, mes amis? Alors, on a vu à ces chagrins illégitimes qui viennent de désirs impurs. On a vu à ces chagrins légitimes qui sont expérimentés par tous, chrétiens aussi bien que non-chrétiens. Alors, quelle est cette troisième forme d'affliction qui, elle et elle seule, va apporter la consolation et le réconfort divin? Alors, c'est un chagrin, bien sûr, qui a une dimension spirituelle, une dimension morale. C'est le chagrin, bien sûr, de la repentance. C'est le chagrin qu'éprouvent tous ceux qui désirent sincèrement, fidèlement suivre le Seigneur et qui pleurent pour leur péché. Paul parle d'un tel chagrin dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il dit « En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. » En fait, vous regardez à ces béatitudes et vous voyez qu'en fait, il y a un lien entre elles. Une béatitude amène à la suivante. Alors, la première béatitude, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est qui ces pauvres en esprit? Eh bien, ce sont ceux qui sont humbles, qui voient leurs propres péchés, qui voient qu'ils sont totalement nus, en quelque sorte, devant Dieu, qu'ils ne peuvent rien faire valoir devant Dieu. Et ceux-là, ils sont devenus humbles. Et à eux, le royaume de Dieu est ouvert. Mais ceux qui sont comme ça devenus humbles, de par la grâce de Dieu et de la part de la lumière de Dieu, eh bien, ils viennent à la deuxième béatitude. Ils sont affligés. Mes amis, c'est une chose de confesser son péché, c'est important. Mais c'est une autre chose que de pouvoir aussi pleurer sur son péché. Le péché de la repentance, plutôt la tristesse, la confession de la repentance, oui, c'est une chose, mais cette contrition qui vient de la repentance, c'est encore une autre chose. Hein? Donc, mes amis, la confession est une chose, la contrition en est une autre. Donc, il y a une bénédiction particulière, nous dit Jésus, pour ceux qui sont capables, si je peux dire, de pleurer. Je ne veux pas dire qu'ils doivent forcément verser des larmes, mais qui sont profondément attristés au-dedans d'eux-mêmes par le mal qu'ils ont commis. Après son grand péché avec Bathsheba, David s'est repenti d'une telle manière. Il a exprimé son chagrin par ces mots « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et fait ce qui est mal à tes yeux. » Job, on le connaît Job, n'est-ce pas? Un tout grand bonhomme. En fait, c'était la personne la plus intègre de sa génération et c'est Dieu lui-même qui le dit, il n'y avait personne comme lui. Mais dans son épreuve, il a appris des choses qu'il n'aurait pas apprises autrement. Et lorsque Dieu s'est révélé à lui dans son épreuve, il a pris conscience à nouveau de la grandeur de Dieu et de la petitesse de sa personne. Et voici ce qu'il dit. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Ça, c'est l'affliction, le chagrin, la contrition de cette deuxième béatitude. où David Brainerd, le grand missionnaire auprès des Indiens d'Amérique, a écrit dans son journal, « Dans mes prières du matin, mon âme a été excessivement attendrie et a pleuré amèrement sur mon grand péché et sur ma bassesse. » En fait, le grec a 9 termes différents pour parler du chagrin. Et le terme qui est utilisé pour cette deuxième béatitude, c'est le terme grec le plus fort pour parler de la tristesse et des larmes. Il représente vraiment ce chagrin qui vient du plus profond du cœur. C'est le chagrin, par exemple, qu'un homme, une femme éprouve lorsqu'il a perdu un conjoint, chéri, bien-aimé. Et c'est par exemple aussi le chagrin que Jacob a ressenti lorsque ses frères lui ont dit que son frère était mort. Donc ça, c'est bien sûr la traduction de la Septante, hein, quand l'hébreu a été traduit en grec. Mais les traducteurs ont pris ce terme grec le plus fort qui existait dans la langue grecque pour parler du chagrin de Jacob, qui était complètement dévasté quand il a appris cette mort de son fils. C'est un mensonge, bien sûr. Ou c'est bien sûr le chagrin des disciples après la mort de Christ, avant qu'ils ne prennent conscience de la résurrection. Alors, c'est ce type de chagrin-là, mes amis, qui va conduire à cette consolation. C'est cette contrition de l'âme, du cœur, ce regret profond d'avoir offensé le Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce chagrin-là qui conduit à cette consolation. Alors, mes amis, ce chagrin qui conduit à cette bénédiction, il faut comprendre que la bénédiction ne vient pas du chagrin lui-même, mais la bénédiction vient de ce que Dieu va faire en réponse à ce chagrin. Les larmes, c'est toujours douloureux. Et ce n'est pas dans les larmes elles-mêmes que vient la bénédiction, mais c'est dans ce que les larmes vont apporter comme réponse de la part de Dieu. Alors, David, bien sûr, dans sa vie, il a expérimenté toutes sortes de chagrins. Il a pleuré parce qu'il était seul, parce qu'il était rejeté, persécuté, il s'est cru par moments abandonné, il était plein de désillusions. Il a aussi pleuré lorsque son fils, le fruit de cet adultère, est mort pour finir. Il a aussi pleuré d'une manière inappropriée lorsque son fils Absalom est mort sur le champ de bataille. Mais il n'y a rien qui a autant brisé le cœur de David que le souvenir de son péché. Et c'est vraiment là le plus grand aspect de sa contrition, de sa tristesse. Le psaume 32. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et voilà la récompense. Tu as effacé la peine de mon péché. » Donc, mes amis, c'est là la récompense de ceux qui pleurent de la bonne manière. C'est cette contrition qui vient de la repentance, d'avoir péché offensé contre le Dieu Tout-Puissant. Il y a deux choses, mes amis, que vous ne pourrez jamais avoir ensemble. Le péché et le bonheur. L'un va exclure l'autre. Soit vous avez le péché et le bonheur véritable qui vient de Dieu vous échappera. Ou vous aurez vraiment ce bonheur qui vient de Dieu, mais à ce moment-là, vous devez tourner le dos au péché. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est exclusif. Jacques dit ceci, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » C'est la deuxième béatitude, n'est-ce pas, hein? Il vous consolera. Donc, mes amis, il y a un grand besoin dans l'Église d'aujourd'hui de ressentir cette contrition de la deuxième béatitude. Il y a beaucoup trop de superficialité dans les églises, de frivolité, de mondanité, mes amis. Et on n'arrive plus à percevoir le péché pour ce qu'il est. Quelque chose d'horrible, quelque chose qui est odieux aux yeux de Dieu. Alors, comment faire, mes amis, comment faire pour développer cette contrition qui est la caractéristique de la deuxième béatitude? Comment procéder, mes amis? Eh bien, voilà, il faut aller là où on va avoir la bonne vision, mes amis. Il faut avoir une vue juste de son péché. Et pour avoir une vue juste de son péché, mes amis, il n'y a qu'une seule chose que vous puissiez faire, c'est d'aller au pied de la croix et de voir l'agonie du Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà, mes amis, on a vu maintenant à ces trois types d'afflictions. Il y a cette affliction qui est illégitime, cette tristesse illégitime, c'est pas ça. Il y a cette affliction qui est propre à tous les hommes, c'est toujours pas la tristesse, la deuxième béatitude. Et il y a cette affliction qui vient par un sens du péché. Et ça, c'est la bonne affliction, c'est la bonne tristesse. Ça, c'est le chagrin qui conduit à la bénédiction. Alors, quels sont, mes amis, les obstacles à un tel chagrin? Si c'est ce chagrin-là qui peut nous amener la bénédiction de la deuxième béatitude, quels sont les obstacles qui pourraient entraver un tel chagrin? Alors bien sûr, mes amis, il y en a plusieurs. Il y a l'amour du péché. Et bien sûr que l'amour du péché, ça va nous priver de la deuxième bénédiction. Et bien des chrétiens, malheureusement, ne sont pas comprendre ce principe. Parce qu'on sait que le pardon est par grâce. On est tenté de traiter le péché légèrement. Je fais mal, bon, mais je confesserai le mal que j'ai fait et Dieu me pardonnera. Et une telle attitude, mes amis, est dangereuse parce que nous attristons l'Esprit de Dieu. Ou nous pleurons sur nos péchés, ou alors nous allons faire pleurer le Saint-Esprit, si je peux dire, à cause de nos péchés. L'amour du péché doit être banni de notre cœur. Le désespoir est une autre chose qui peut nous priver de ce chagrin qui va nous amener la consolation divine. Le désespoir peut nous amener à pleurer au point que nous pensons qu'il n'y a plus rien que Dieu puisse faire pour nous, que nous sommes en quelque sorte au-delà de la sphère de la grâce de Dieu. Et c'est terrible, mes amis. Un tel désespoir, on le voit dans la Bible, c'est Asaph et le psaume 73. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Mais le désespoir, c'est une autre forme de chose qui va nous faire manquer cette contrition, cette affliction, cette tristesse de la deuxième béatitude. La présomption est une autre chose qui peut nous conduire aussi à manquer cette bénédiction. Présomption, c'est de croire que finalement, oui, j'ai besoin du pardon, de la grâce de Dieu, mais la présomption ne se voit pas comme un grand pécheur. J'ai besoin de grâce, mais d'un peu de grâce, ça me suffit. Et par conséquent, voilà, ces gens-là ne vont pas éprouver le chagrin, le remords qui va amener la consolation. La procrastination est une autre chose. Procrastination, c'est remettre à plus tard ce qu'on doit faire aujourd'hui. J'ai quelque chose dans ma vie qui doit changer, mais je remets à demain ou au surlendemain, etc. Mais je ne sais pas de quoi sera fait mon lendemain. Et si je ne me repens pas aujourd'hui, et si je ne mets pas ma vie en règle aujourd'hui, mais je n'ai aucune assurance que demain je pourrai encore le faire. Donc voilà quelque chose, petites choses qui peuvent nous faire manquer la bénédiction de la deuxième béatitude. Alors voilà, mes amis, comment éviter tous ces pièges? Et encore une fois, mes amis, c'est la croix. Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous ne voulez pas tomber dans ces pièges, passez du temps dans le jardin de Gethsémané. Voyez votre Sauveur pleurer, être affligé. Voyez sa transpiration devenir comme des grosses gouttes de sueur. Entendez-le dire, « Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. » Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voyez-le sur la croix et s'écrier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à la croix, mes amis. C'est à la croix qu'on peut mesurer la pleine dimension du péché et à quel point il est horrible devant Dieu. Alors, mes amis, c'est la grande chose qu'on apprend de la croix. C'est ce sentiment terrible que Dieu éprouve pour le péché. Alors voilà, on a regardé à trois formes de tristesse. Une qui est illégitime, une qui est commune à tous les hommes, une qui est spécifiquement spirituelle, c'est la repentance du péché. Ensuite, on a vu à ces obstacles qui peuvent nous priver d'un tel chagrin. L'amour du péché, le désespoir, la présomption, la procrastination, etc. Alors maintenant, on peut regarder à la récompense. C'est une récompense quand même. Et le Seigneur Jésus-Christ est vraiment le grand consolateur. Et il va vraiment réconforter ceux qui ont vraiment un sens de leur péché et qui pleurent à cause de leur péché. Mais que fait-il? Quel type de réconfort Jésus apporte-t-il pour ceux qui pleurent sur leur péché? Eh bien, il y a trois dimensions dans cette consolation. La première, elle est évidente, n'est-ce pas? Il va les consoler, les réconforter en leur accordant son pardon. Et ils vont le savoir. C'est la première dimension, finalement, de cette consolation que Dieu donne à tous les pécheurs qui pleurent sur leurs péchés, qui se tournent vers lui, les mains vides, et qui invoquent sa grâce en Christ. Alors, il y a des beaux versets dans la parole de Dieu qui décrivent ce pardon. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est qui a dit ça? Ésaïe. C'est Ésaïe. Il y a Jérémie qui dit « Car je pardonnerai leurs iniquités », il parle pour Dieu bien sûr, « et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Dans un sens absolu, Dieu ne peut rien oublier, parce que sinon il ne serait plus omniscient. Mais c'est simplement une façon de parler pour dire que Dieu ne va plus jamais tenir compte de nos iniquités. Michée, qu'est-ce qu'il dit au nom de Dieu? « Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés ». Où David écrit, c'est le psaume 103, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Alors voilà la première forme de consolation que le Seigneur offre à ceux qui pleurent sur leurs péchés. C'est une assurance de pardon, que plus jamais, jamais, Dieu va ramener ces choses devant nous et nous pourrons nous tenir devant lui justifiés. Oh, il y a tellement de joie, mes amis, dans cette expérience. Il y a de tellement belles promesses dans ce contexte. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais la consolation du Seigneur ne s'arrête pas là. Il y aura aussi un réconfort qui nous viendra par le fait qu'on se sera libéré de cette esclavage du péché. Et lorsque vous êtes chrétien, on connaît finalement le verdict de l'Écriture. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hein? C'est la réalité. Cet homme, ce vieil homme-là qui était tellement enclin à pécher, il a été crucifié. Il y a un nouvel homme maintenant qui aspire à la justice. Et cet homme, maintenant, il est habité par l'Esprit de Dieu. Il y a une force nouvelle en lui qu'il n'avait pas auparavant. Pensez à un gouvernement cruel, oppresseur. Et ce gouvernement, tout d'un coup, il est renversé par un coup d'État. Et maintenant, il y a un gouvernement bon qui a pris la place, qui contrôle le pays. Que va faire l'ancien gouvernement? Il a perdu les rênes du pouvoir, mais que fait-il dans ces cas-là? Il va se lancer dans une guerre de guerriera. Il va essayer de lancer des escarmouches pour faire mal, pour faire souffrir, mais il ne peut plus contrôler le pays. Il a perdu cette faculté. Eh bien, c'est l'aspect du chrétien en Christ. Le péché a perdu sa puissance sur lui. Il est pécheur. Il va continuer à pécher, mais il n'est plus esclave du péché comme il l'était autrefois. Quelle consolation, mes amis, ici. Mais ce n'est pas tout, mes amis. Ce n'est pas tout. Et le Seigneur Jésus-Christ nous promet aussi une consolation parce qu'il va nous délivrer un jour de la présence même du péché. Oh, c'est un grand thème qui est particulièrement développé dans l'Épître aux Romains. Et nous venons de voir à l'église à Sion, dans l'étude biblique, la fin du chapitre 7, vous le connaissez, c'est ce passage où Paul, en fait, s'exprime avec des termes si forts. Il exprime ce combat qu'il a contre le péché, et des fois ce désespoir qu'il a face à son iniquité. Et puis il dit, mais je prends plaisir avec l'homme intérieur, dans la loi de Dieu, mais je vois une autre force dans mes membres qui me rend captif de la loi du péché. Il dit, je suis vendu au péché. Et puis il dit, mais misérable que je suis, qui me libérera de ce corps de mort? Ah, il connaît aussi la réponse, hein, après. Mais juste pour vous prendre une illustration, pensez à un sculpteur. Il a de grandes ambitions, il aurait de grands talents, mais les outils qu'il a à sa disposition sont tellement imparfaits. L'alliage n'est pas bon. Les traitements non plus ne sont pas bons, la trempe n'est pas bonne, le revenu n'est pas bon, l'affûtage n'est pas ce qu'il devrait être, n'est-ce pas? Et cet homme, il est frustré parce que s'il avait de meilleurs outils, oh, mais il pourrait faire des choses tellement plus grandes, tellement plus belles, tellement plus parfaites. Mais il ne les a pas. C'est notre condition. On aspire à faire ce qui est juste, c'est seulement ce qui est juste devant Dieu, non? Il y a ce péché qui nous colle à la peau, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos actes. Mes amis, cet homme nouveau, est-ce qu'il est heureux s'il a réussi à résister à 9 tentations, mais qu'il a succombé à la 10e? Est-ce qu'il est totalement heureux, épanoui, s'il a réussi à expulser son péché à 99% ou 99%, mais qu'un pour cent reste? Non, mes amis, non. On aspire à la délivrance totale, mes amis. Eh bien, cela vient, mes amis. Et chaque jour nous ramène, nous approche un peu plus de ce grand jour. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est un réconfort merveilleux. Et Paul dira, quelques versets après avoir parlé de son grand désarroi face à son péché, « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Oui, mes amis, c'est ça notre consolation. Le meilleur n'est pas derrière nous, il est devant nous. On attend des nouveaux cieux, une nouvelle terre, dans lesquels seule la justice régnera. On sera dans cette place que le Christ a préparée pour nous. Ce sera ces noces de l'agneau, ce banquet de joie, de félicité, en la présence du Sauveur qui durera pour l'éternité. Et nous serons ce jour-là comme lui, saints de part en part. Oh, mais qu'est-ce qu'on languit pour cela. Job parlait déjà de cet espoir lorsqu'il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Et même lorsque ma chair sera détruite et consumée, il dit « Mais je sais que je le verrai de mes yeux, et ce sera mes propres yeux et pas les yeux d'un autre. » Ah, comme mon âme soupire pour cela. On a tous un tel soupir, mes amis. Mais on s'approche, mes amis. On s'approche toujours plus. Mais quel espoir, dites-moi. Quel espoir a le monde qui ne connaît pas Christ? Quel est l'espoir de l'incroyant? Regardez au monde. Regardez à vos journaux. Regardez à ce que vous voyez et lisez jour après jour de ce qui se passe ici-bas. Au 19e siècle, les hommes pensaient avoir la solution à leurs maux. Il y avait de grandes percées scientifiques, de grandes percées technologiques, de grandes percées médicales. Il y avait de nouvelles pensées politiques qui allaient révolutionner la vie sociale de l'humanité, pensait-on. Mais mes amis, on a fait de grandes percées médicales. On vit plus longtemps, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on est plus heureux pour autant? Ah non. Oui, mes amis, c'est vrai, on a des capacités de voyager qu'on n'avait pas auparavant. On peut se rendre rapidement à des lieux, dans des lieux que nos ancêtres ne pouvaient même pas entrevoir. Mais est-ce que ces lieux sont véritablement meilleurs que l'endroit où nous sommes ici aujourd'hui? Mais non. Nous avons des moyens de communication extraordinaires, mes amis, fantastiques. Oui, mais c'est aussi des moyens par lesquels le mensonge se propage tellement vite aujourd'hui. Oui, le monde avait de grands espoirs. L'éducation, une meilleure éducation, nous disait-on, ça sera la solution aux maux de l'humanité. Ah, il y a l'ONU, mes amis, cette grande organisation. Toutes ces choses ont été essayées, mes amis. Mais elles n'ont pas tenu leurs promesses. Elles ne tiendront jamais leurs promesses. Il n'y a pas de réconfort pour le monde maintenant. Il n'y aura surtout pas de réconfort pour le monde dans le futur. Mais, mes amis, pour le chrétien, il y a cette deuxième béatitude. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et cette consolation, elle est là, elle nous attend. Et finalement, elle devient toujours plus réelle. Oui, mes amis, le jour vient où il n'y aura plus de larmes, plus de chagrin, plus de soupirs. Les larmes elles-mêmes seront essuyées par la main de Dieu. Et nous nous serons pour toujours dans ce soleil éternel. Et nous expérimenterons cette joie, cette félicité, cette gloire sans tache et rien de semblable. Oui, mes amis, heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen.